Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans avant d'être poussé à la démission en 2017. Robert Mugabe est décédé à l'âge de 95 ans, père fondateur du pays pour les uns, autocrate pour les autres. Nous retracerons sa carrière politique dans un instant.
Et nous nous pencherons ensuite sur un rapport d'un think tank britannique. Il prouve qu'aucun des grands groupes pétroliers ne respecte les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat.
Et en Amazonie, les pays vont-ils respecter leurs futurs engagements pour préserver la forêt ? Les représentants de la Colombie, du Brésil, de l'Équateur et du Pérou se réunissent en sommet aujourd'hui.
Les États-Unis confirment être en pourparlers avec la rébellion chiite au Yémen. Nous analyserons ce premier engagement de la part de Washington.
Boris Johnson mis en minorité au Parlement britannique. Matteo Salvini évincé du gouvernement italien. Les populistes ont-ils perdu la partie? Voici la question que posera Frédéric Saïs dans son billet politique. Il nous rejoint après cette édition. Et l'on commence donc par cette nouvelle. Nous avons appris ce matin la mort de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, à l'âge de 95 ans. Celui qui a régné sans partage pendant 37 ans sur le pays avait été évincé du pouvoir en novembre 2017. Depuis, le vieux lion vivait reclus dans son immense propriété de Harare. Retour sur le parcours de cet ancien héros de l'indépendance, devenu despote, comme nous l'explique Valérie Crovin.
Robert Mugabe n'a pas toujours été un dictateur. Après des études d'économie en Afrique du Sud et au Ghana, il rentre en 1960 en Rhodésie du Sud, l'ancien nom du Zimbabwe, pour fonder un parti politique. Le camarade Bob est l'un des meneurs de la guerre de libération contre le régime raciste de Ian Smith. Ce dernier lui fera payer cher son engagement. Mugabe passera 11 ans en prison. En 1980, à l'indépendance de son pays, Robert Mugabe devient naturellement Premier ministre, puis 7 ans plus tard, président. Il instaure la gratuité de l'école et met en place un système de sécurité sociale. Le Zimbabwe est alors cité en exemple. Mugabe sera même anobli par Elisabeth II. Dans les années 2000, Robert Mugabe lance un programme d'accaparement des terres des fermiers blancs. La violence se déchaîne, les campagnes se paupérisent, l'économie du pays, grenier à céréales de l'Afrique australe, ne s'en remettra pas. Sourd aux critiques, Mugabe s'accroche au pouvoir. Il est réélu systématiquement jusqu'en 2017, où lâché par l'armée, il démissionne, non sans avoir essayé de placer sa femme Grace, de 40 ans sa cadette. Son départ, après 37 ans de règne, avait suscité des scènes de liesse dans un pays qu'il a largement contribué à ruiner.
Un pays aujourd'hui dirigé par Emmerson Mnangagwa, c'est lui d'ailleurs qui annonce la mort de Robert Mugabe sur son compte Twitter ce matin, préférant saluer une icône de la libération en 1980. Que vaut l'accord de Paris aux yeux des grandes compagnies pétrolières ? Pas grand-chose a priori si l'on se penche sur le rapport rendu public ce matin par le groupe de réflexion britannique Carbon Tracker. Il affirme qu'aucune de ces entreprises ne respecte les engagements de la COP21 et le texte va même plus loin. Il prouve, chiffres à l'appui, que les grands patrons pétroliers, les grands groupes pétroliers, dont le français Total, sont en train de parier massivement contre l'objectif de limitation du réchauffement climatique, Véronique Robérot.
50 milliards de dollars, soit 45 milliards d'euros, c'est le montant total des projets validés par les 10 plus grandes compagnies pétrolières pour les 11 prochaines années. Investissement dans les sables bitumineux au Canada par la société Aspen ou dans le pétrole par Total en Angola. Son projet Zinia 2 en partenariat avec Exxon et BP s'élève à 1,3 milliard de dollars. La multinationale américaine ExxonMobil investit à tout va dans les énergies fossiles. 90% de ses dépenses dans de nouveaux projets d'ici 2030 ne seront pas compatibles avec l'accord de Paris. Bien que ces compagnies disent publiquement être soucieuses de l'accord sur le climat, dit le rapport, leur investissement massif dans les énergies fossiles à l'avenir prouve le contraire. Pourquoi ? Parce que leur chiffre d'affaires provient encore à 95% du pétrole et du gaz. Et surtout, ces compagnies pétrolières ne croient pas un monde dont l'augmentation de la température ne dépassera pas les 1,6 degrés d'ici 2100. Scénario impossible à tenir selon elles, comme il sera, pense-t-elle, bien compliqué de réduire la consommation du pétrole et du gaz dans les prochaines années, dans quelque partie du monde que ce soit. Les multinationales pétrolières en veulent pour preuve le mouvement des gilets jaunes en France. Ces compagnies pensent encore que ces investissements seront rentables quand le rapport de Carbon Tracker explique au contraire que le retour sur investissement sera minime ou inexistant en cas de respect de l'accord de Paris.
Les compagnies pétrolières encore, qui ont investi pour certaines en Amazonie, notamment au Pérou et en Équateur il y a quelques années, puisant du pétrole et détruisant une grosse partie de l'écosystème. Aujourd'hui, 4 des 9 pays qui abritent la forêt amazonienne organisent un sommet. Leurs représentants se retrouvent à Laetitia, la capitale colombienne de l'État d'Amazonas. Il s'agira de s'unir pour préserver l'Amazonie, qui est surtout en proie en ce moment à de violents incendies. L'élevage et la culture du soja en sont les principales causes. Unifier les visions de chacun donc, et ce ne sera pas simple. La Colombie par exemple s'oppose largement à la politique du président brésilien Olivier Pujade.
Les 80 000 départs de feu recensés au Brésil depuis le début de l'année ont fait tomber le masque de Jair Bolsonaro. Pour lui, l'Amazonie est une terre comme les autres, destinée à être exploitée. Depuis son arrivée au pouvoir, la déforestation a bondi de 67%. Son gouvernement a autorisé l'utilisation de 239 nouveaux pesticides. Jair Bolsonaro souhaite ouvrir les portes de l'Amazonie à l'agrobusiness et aux orpailleurs. Et surtout, qu'on ne vienne pas mettre le nez dans ses affaires. Une vision totalement opposée à celle d'Ivan Duque, le président colombien, à l'initiative de la réunion d'aujourd'hui. La Colombie est aussi l'une des principales victimes de la déforestation, mais depuis l'an dernier, l'Amazonie y est considérée comme un sujet de droit, une décision de la Cour suprême qui oblige l'État à protéger, conserver et restaurer sa forêt. Ivan Duque plaidera en faveur de la création de mécanismes communs pour défendre l'Amazonie. Le Brésilien Bolsonaro, lui, n'apparaîtra dans cette réunion que par vidéoconférence, officiellement pour raisons médicales. Certains y verront sans doute une manière de prendre de haut l'initiative colombienne.
Jair Bolsonaro, qui a par ailleurs désigné hier un futur procureur général de la République. Il s'agit d'un juriste en phase avec sa politique environnementale. Un homme déjà largement critiqué par les experts et les militants. À l'opposé maintenant de la politique du gouvernement brésilien, nous vous emmenons ce vendredi en Grande-Bretagne, dans la première ville de transition au monde. Elle s'appelle Totnes, elle se situe au sud de Devon. Et pour France Culture, Marion Lours y est rendue et vous découvrirez son reportage ce soir sur France Culture à partir de 17h. En voici déjà ce matin un extrait. La parole de la maire de Totnes, Jackie Hodgson, qui nous explique le fonctionnement de sa commune.
Le mouvement transition est vraiment un mouvement pionnier. Il a commencé en Irlande et puis il est arrivé ici quand Rob s'est installé, qu'il a rencontré des gens. Ils ont dit « Transformons cette expérience en un réseau ». Et ça a rayonné depuis Totnes tout autour du monde. Ici, le conseil municipal est devenu un conseil de ville en transition. Ça veut dire qu'on travaille avec le mouvement Transition, qui a obtenu des subventions de la part de responsables politiques. Et maintenant, l'hôtel de ville est couvert de panneaux solaires qui nous rapportent de l'argent. Chaque année, autour de 7000 euros qui nous reviennent et qu'on peut utiliser pour financer des projets.
Est-ce que vous avez de l'argent pour aider les entrepreneurs et les particuliers qui veulent faire des projets verts ?
On a un fonds qui dispose peut-être de 3500 euros par an. Ce n'est pas beaucoup, mais ça permet de stimuler et soutenir des projets. Ça fait une vraie différence.
C'était la maire de la commune britannique de Totnes que vous retrouverez dans le reportage de Marion Lourd, diffusé ce soir à partir de 17h sur France Culture. Marion s'y demande si Totnes est une ville modèle pour la transition écologique. Un grand reportage réalisé grâce à Annie Bro. L'émission ce soir sera présentée par Aurélie Kiefer. Boris Johnson entre en pré-campagne pour d'éventuelles législatives au Royaume-Uni. Il se rend aujourd'hui en Écosse et se dit déterminé à organiser des élections anticipées. Plutôt mourir au fond d'un fossé que de demander un report du Brexit, a-t-il lancé hier après avoir été contraint par les députés britanniques, contraint de demander un nouveau délai à l'Europe. Le pape François se rendra aujourd'hui auprès de malades du virus du sida près de Maputo au Mozambique. Le pays est extrêmement touché par le VIH et le pape ira dans un établissement dédié aux malades, Bruce de Galzin.
C'est un centre de soins de 2000 mètres carrés, installé dans la banlieue très pauvre de Maputo, au nord de la ville. Il reçoit des milliers de malades du sida dans une ville où près d'un quart de la population adulte est atteinte du VIH. Ces malades viennent suivre le programme DREAM, un programme de prévention de la transmission du virus lancé en 2002. Il s'adresse d'abord aux femmes qui accueilleront le pape, comme l'explique Roberto Zuccolini, le porte-parole de la communauté Sant'Egidio à l'initiative de Dream.
Il sera accueilli justement par des femmes et des malades, mais surtout des femmes qui sont des activistes du programme Dream, c'est-à-dire des personnes qui étaient malades, qui ont vu que c'était possible d'être soignées, et donc qui communiquent aux autres qui ne croient pas et qui pensent d'être condamnés à mort.
Ces femmes séropositives ont pu mettre au monde 130 000 enfants sains depuis que le programme existe et 200 000 personnes ont été soignées au Mozambique depuis 2002. Mais le sida n'est pas la seule maladie à combattre. Il y a la malaria, la tuberculose, certaines formes de cancer liées au sida. Le centre permet aussi aux enfants de mieux se nourrir pour mieux lutter.
C'était Bruce de Galzin pour France Culture. Il s'agit du premier gouvernement en Soudan depuis la chute en avril dernier du président Omar el-Béchir. Gouvernement dévoilé hier par son chef Abdallah Hamdok. Et il est composé de 18 membres, dont 4 femmes, parmi lesquelles la future ministre des Affaires étrangères. Les États-Unis et la rébellion chiite au Yémen ont débuté des pourparlers. C'est la première fois que de tels contacts sont annoncés officiellement. Washington, rappelons-le, est un puissant soutien de la coalition arabe qui intervient depuis 2015 dans la lutte contre les Houthis. La nature des discussions engagées n'a toutefois pas été précisée, Nabila Hamel.
Nous avons des pourparlers dans la mesure du possible avec les Houthis pour essayer de trouver une solution négociée, mutuellement acceptable. Celui qui a officialisé ces contacts est l'assistant du secrétaire d'État américain pour le Moyen-Orient. Il s'exprimait lors d'une visite en Arabie Saoudite. Cette annonce intervient alors que les Houthis ont multiplié ces derniers temps les attaques de missiles et de drones contre l'Arabie Saoudite voisine et au moment où une autre guerre s'est déclarée entre séparatistes et loyalistes à Aden, dans le sud du pays. François Frison-Roche, spécialiste du Yémen.
Les Américains doivent sentir que ce conflit yéménite est en train de prendre une dimension incontrôlable. Annoncer publiquement qu'ils vont prendre langue avec les rebelles houthis, c'est d'une certaine façon satisfaire les houthis puisqu'ils reconnaissent une certaine visibilité. Ils veulent certainement se réimpliquer dans le dossier et donc, d'une certaine manière, participer à sa résolution et faire pression sur les principaux intervenants dans ce dossier, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Et puis, les Américains se disent, peut-être finalement, il y a des choses qui sont parfaitement négociables.
Et selon le Wall Street Journal, Washington cherche à inciter Riyad à prendre part à ses pourparlers avec les Houthis. À la manœuvre, il y a Christophe Hanzel, diplomate américain, nommé ambassadeur au Yémen en avril dernier.
Merci Nabila Hamel.
8h12 sur France Culture, c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Aigle Azur annonce l'annulation de tous ses vols.
Oui, à partir de ce soir, minuit, la compagnie aérienne française, spécialiste des liaisons entre l'Algérie et la France et en pleine crise financière en ce moment, prévient déjà ses clients. Les titulaires de billets ne pourront pas être dédommagés. Ils sont invités à contacter leur assurance ou leur agence de voyage. Aigle Azur emploie 1150 salariés et a jusqu'à lundi prochain pour trouver un repreneur et éviter ainsi une liquidation judiciaire. L'apprentissage a battu un record. Il n'y a jamais eu autant d'apprentis en France, selon le ministère du Travail. Ils étaient 458 000 apprentis avant l'été, soit 8,4% de plus qu'en juin 2018. De quoi réjouir notre invitée dans les matins de France Culture, Muriel Pénicaud. Madame la ministre, avant de vous interroger sur les centres de formation de ces apprentis, voici un zoom ce matin sur les formations mises en place au sein des entreprises elles-mêmes. La loi les y autorise désormais. 61 groupes ont fait la demande, et notamment Anne-Laure Chouin, des géants de la restauration collective.
Ils s'appellent Adeco, Sodexo, Accor et Corian. Ils ont besoin de cuisiniers et ils ont du mal à recruter. Ce métier est un secteur en tension. Alors ces 4 géants de l'accueil et de la restauration collective ont décidé d'unir leurs forces. La loi Avenir Professionnel, qui libéralise l'offre de formation, leur permet de monter leur propre CFA, sans avoir notamment à demander la permission de la région. L'obtention des certifications leur sera par ailleurs facilitée. Une aubaine pour le DRH de Corian, qui gère des EHPAD, Rémi Boyer.
La loi nous permet en effet d'avoir un outil plus souple à la main des entreprises pour définir plus en amont nos besoins et donc accélérer le recrutement de futurs cuisiniers. Parce que 4 grosses enseignes connues en France se rassemblent pour redorer ce blason des métiers de cuisine. Le diplôme ne sera pas du tout un diplôme au rabais. Au contraire, on va innover au plan pédagogique sur les modules, notamment digitaux.
La concurrence de ces CFA d'entreprise est-elle une menace pour les centres de formation déjà existants? Selon Patrick Maigret, qui préside l'association des directeurs régionaux de CFA, tout dépend de la mise en œuvre de ces nouvelles formations.
Le risque, il est évident que l'entreprise va avoir tendance à répondre à un besoin immédiat. Une fois que l'entreprise aura satisfait ses besoins de court terme, il n'est pas forcément impossible les sections d'apprentissage qui auront été ouvertes ne perdurent pas.
Si ces nouveaux CFA offrent des formations complémentaires, alors leur existence est justifiée. S'il s'agit d'une offre directement concurrentielle, alors cela pourrait bien menacer de disparition des CFA aux reins moins solides.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, vous êtes notre invitée ce matin sur France Culture. Face à ce que l'on pourrait appeler ces CFA d'entreprise, le risque, et on l'entendait, n'est-il pas de former en entreprise des salariés immédiatement opérationnels, certes, mais qui n'auront pas de formation pluridisciplinaire pour leur permettre ensuite d'évoluer et de s'adapter à d'autres métiers?
Alors, la loi, elle autorise en fait, à changer d'échelle. On a tellement vécu avec un système un peu malthusien où il y avait très peu d'apprentis, les nombres diminuaient depuis 20 ans. Nous, on a ouvert les possibilités que des entreprises, un centre de formation d'apprentis existant, une collectivité territoriale, une association puissent créer un CFA. C'est jamais au rabais parce que c'est toujours les mêmes diplômes. Ce sont des diplômes qu'on prépare par l'apprentissage, des diplômes d'État. Donc, les formations seront de la même qualité partout et évidemment, on vérifiera les taux d'insertion. Mais je crois qu'il faut s'autoriser à réussir l'apprentissage dans ce pays, c'est-à-dire faire réussir les entreprises dont une sur deux a du mal à trouver les compétences et les jeunes. On a encore un taux de chômage des jeunes, même s'il a baissé depuis 2 ans, on est encore à 18,5%, on vient de plus de 20. Donc il faut autoriser les jeunes et les entreprises à réussir. Aujourd'hui, on ne constate pas du tout cette crainte qu'avaient certains, puisque par exemple, les centres de formation d'apprentis des chambres de métiers, qui sont le socle, c'est un tiers des apprentis, eh bien, sont en train de se développer aussi, puisque eux aussi n'ont plus besoin de l'autorisation administrative. Et donc, on va voir fleurir énormément de formations pour le bien des entreprises et des jeunes.
Et
il faut un contrat d'apprentissage. Donc, c'est une régulation par le fait qu'il y a forcément un besoin et une régulation par le diplôme.
Et les apprentis trouvent ensuite du travail?
Les apprentis, selon les filières, trouvent 70, 80 ou 100% trouvent un emploi.
Merci Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Nous vous retrouvons dans 5 grosses minutes dans les matins de France Culture. Juste le temps pour moi de vous donner la météo du jour. Ce vendredi sera marqué par de nouvelles pluies au sud-est de la France, tandis qu'ailleurs, cet après-midi, la plupart des régions vont conserver un soleil généreux. Les températures se rafraîchissent légèrement. Il fait ce matin 16 degrés à Rennes, 17 à Dunkerque, Paris, Strasbourg, 18 degrés à Bordeaux et 24 degrés ce matin à Nice.